Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 28 novembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, au cours de cette émission, le journal, les sports, le personnage de la semaine et focus sur l'exposition Head On à Sydney. Il est 13h, c'est l'heure du journal. D'abord, les grands titres de ce dimanche 28 novembre. Test urgent en cours pour savoir si des passagers atteints de Covid-19 qui sont arrivés en Australie en provenance d'Afrique australe ont le variant Omicron. Proposition de nouvelles lois australiennes pour lutter contre les trolls en ligne. Les Antilles, le gouvernement français est prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. En Australie, les tests se poursuivent pour savoir si deux personnes atteintes de Covid-19 qui sont arrivées à Sydney en provenance d'Afrique australe ont le variant Omicron du virus. L'Australie a imposé de nouvelles règles de quarantaine à toutes les arrivées internationales et interdit aux personnes de 9 pays d'Afrique australe de voyager et de venir ici. 54 personnes arrivées en Australie en provenance de l'étranger hier venaient des 9 pays d'Afrique australe et ont été placées en quarantaine pendant 14 jours. Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que le chef de la Santé, Paul Kelly, tenait quotidiennement des réunions avec les autorités fédérales, des États et des territoires du pays pour surveiller la situation de près.
To examine the nature of the variant, all of the international evidence and all of the domestic requirements. And we won't hesitate, if more is needed, to take those steps. As we did with our first briefing on Friday, we foreshadowed that if more was needed, we would take steps. And overnight, international evidence came in and we took immediate steps yesterday. And we'll continue to do that to protect Australians.
Le chef de la Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet, a déclaré que Omicron rappelle aux gens que la pandémie n'est pas terminée.
There are limits to what the state and federal government can do. These variants will get into the country. It is inevitable. But what we can do to keep people safe is to get vaccinated.
Le ministre australien du commerce, du tourisme, de l'investissement, Dan Tehan, s'est rendu à Genève pour une réunion de l'Organisation mondiale du commerce pour découvrir à son arrivée que la réunion avait été annulée à cause du variant Omicron. Précision de Charlotte Cossé pour Radio France Internationale.
Premier report annoncé, la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Après une réunion d'urgence de ses 164 membres, l'OMC a décidé d'un report sine die de sa 12e conférence. Elle devait se réunir à Genève à partir de lundi. Environ 4000 participants, dont des chefs d'État et plus d'une centaine de ministres, étaient attendus. L'Organisation mondiale de la santé doit débattre la semaine prochaine d'un éventuel traité pandémique. Suite aux décisions qui seront prises, la tenue de deux autres grande réunion, une sur la finance durable et l'autre sur les systèmes d'armes létales autonomes, pourraient se voir elles aussi être annulées. Un peu partout dans le monde, des mesures restrictives sont de nouveau prises face à la nouvelle vague épidémique et à la détection du nouveau variant. L'Autriche a décidé de reconfiner. L'Allemagne, qui a passé le cap des 100 000 décès du Covid cette semaine, a déjà fait une croix sur un certain nombre de marchés de Noël. Et à l'approche des célébrations de fin d'année, son ministre de la Santé plaide pour l'annulation des grandes manifestations et des fêtes.
Le gouvernement fédéral en Australie a annoncé qu'il allait gérer contre les trolls en ligne avec une nouvelle législation introduite au Parlement. Les lois proposées feront des sociétés de médias sociaux l'éditeur responsable lorsque des commentaires diffamatoires sont faits sur leur plateforme. Les lois fourniront un mécanisme permettant aux entreprises de se défendre si elles peuvent révéler à un plaignant les détails personnels du troll qui a fait les commentaires. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que les lois rendraient l'univers en ligne plus sûr pour les enfants et pour tout le monde.
The online world shouldn't be a wild west where bots and bigots and trolls and others can just anonymously going around and harm people and hurt people, harass them and bully them and sledge them. That's not Australia. That's not what can happen in the real world. And there's no case for it to be able to be happening in the digital world.
Les lois visent à répondre à une décision de la Haute Cour qui a statué que les utilisateurs de médias sociaux et non les plateformes sont les éditeurs responsables des commentaires faits sur leur profil. La procureure générale Michaëlia Cash a déclaré que le changement obligerait les grandes entreprises technologiques à rendre des comptes.
Social media services, they need to step up and they need to understand that they have a responsibility in this regard. And that is why this important step providing clarity to all Australians, but in particular to social media companies, you will be deemed the publisher.
Le COVID-19 à nouveau, il y a eu 1061 nouveaux cas de coronavirus dans le Victoria et 4 autres décès ce dimanche. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 185 nouvelles infections au COVID-19 et pas de décès. 2 cas de la variante Omicron de COVID-19 ont été trouvés au Royaume-Uni. Les cas positifs à Brentwood et Nottingham sont liés à des voyageurs de retour d'Afrique du Sud. Le Royaume-Uni a réimposé des restrictions aux frontières en réponse aux variants, y compris des quarantaines pour tous les voyageurs internationaux, une interdiction des arrivées de certains pays africains et la réintroduction du port du masque. Le médecin-chef du Royaume-Uni, Chris Whitty, a déclaré que les enquêtes se poursuivent sur la façon dont les vaccins Covid répondent à Omicron et espère qu'ils empêcheront toujours l'apparition de maladies graves.
What we do know is that there are quite extensive mutations on the spike protein, which is an important part of the virus. And the reason that is important is that is the bit which all the vaccines are against and indeed which most natural immunity is against. So there is a reasonable chance that at least there will be some degree of vaccine escape with this variant.
Le Premier ministre Boris Johnson a également annoncé une accélération du programme britannique de rappel du vaccin Covid.
It is pretty clear that if you're no matter what the effects of this new variant, if you're vaccinated in particular, if you have a booster, your immune response is likely to be stronger. So the best thing you can do, best thing everybody can do, is get your booster, and the stronger the overall position will be. We'll all be in. As I say, as we go forward to Christmas, we are in a strong position.
Après des jours d'émeutes qui ont vu des bâtiments incendiés, les habitants des îles Salomon, dans la capitale Honiara, sont sortis de chez eux pour acheter de la nourriture et du carburant, craignant une pénurie de fournitures essentielles. Et un couvre-feu nocturne a été imposé, interdisant aux gens de sortir de chez eux de 19h à 6h du matin. Rose Evelyn Clough, de l'organisation d'aide Caritas Australia, a déclaré sur SBS News que les émeutes empêcheraient les communautés les plus pauvres d'accéder aux fournitures essentielles.
The protests in Solomon Island will have, you know, devastating impacts on poor communities who already face significant struggles accessing clean water, food and sanitation. You know, the riots in the capital impact supply chains across the country, making things even more unequal for communities far from the capital where basic goods are already hard to access and it's very expensive.
La situation aux Antilles et le gouvernement français prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Les tensions restent en Martinique et la Guadeloupe autour de la question de l'obligation vaccinale. Aurélien Devernois, RFI.
gouvernement en panique, prêt à lâcher des territoires de la République pour satisfaire des indépendantistes radicaux. De Marine Le Pen à Xavier Bertrand, en passant par Éric Ciotti, les candidats de droite et d'extrême droite à la présidentielle ont fustigé la proposition de Sébastien Lecornu. Il n'y a pas de mauvais débat face à la crise, avait estimé le ministre des Outre-mer, affirmant répondre à des revendications de responsables politiques locaux. Mais cela tombe mal, selon le député Les Républicains Julien Aubert, qui pointe du doigt les difficultés déjà rencontrées avec le référendum sur l'indépendance d'une autre zone d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie. Le dossier de l'autonomie ressemble surtout à un contre-feu du gouvernement, incapable pour l'instant de répondre à la colère qui a envahi la Guadeloupe et la Martinique. En 2009 déjà, lors d'une autre crise sociale, Nicolas Sarkozy avait mis sur la table l'élargissement des prérogatives des collectivités antillaises et la population avait préféré le statu quo, de nombreux pans de l'économie locale étant par exemple dépendants des aides européennes. Or, une autonomie élargie, comme en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie, ferait sortir les Antilles de l'Union européenne.
Voilà, c'était plutôt Aurélien Devernois qui nous expliquait la situation aux Antilles avec le gouvernement français prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Le convoi militaire français qui fait route vers Gao au Mali, vers sa base militaire, à nouveau bloqué cette fois au Niger. Précision de Magali Lagrange pour
Le convoi en provenance du Burkina Faso s'est arrêté vendredi soir à proximité de la ville de Téra, à un peu moins de 200 km à l'ouest de Niamey pour y passer la nuit, avant de reprendre la route le lendemain, selon l'état-major des armées françaises. Hier matin, le convoi de l'armée française, escorté par des gendarmes nigériens, a été bloqué alors qu'il traversait Téra par de jeunes manifestants en colère qui avaient érigé des barricades et brûlé des pneus sur le principal axe de la ville. L'état-major des armées françaises affirme que les forces de sécurité sont intervenues une première fois, notamment en tirant des gaz lacrymogènes pour protéger le convoi et tenter de disperser les manifestants qui s'approchaient des véhicules. Les forces françaises et nigériennes sont de nouveau intervenues plus tard dans la matinée en procédant à des tirs de sommation suivis de tirs au sol. Le bilan est encore susceptible d'évoluer car plusieurs blessés graves ont été évacués vers Niamey alors que d'autres étaient pris en charge à l'hôpital de Téra.
En Australie, à nouveau, une sénatrice libérale a défendu le Premier ministre contre le traitement qu'il a réservé à une députée qui a changé d'avis cette semaine au sujet de la nécessité d'un projet de loi sur l'intégrité nationale. La députée libérale de Tasmanie, Bridget Archer, a défié son parti et a traversé le parquet pour soutenir le projet de loi sur l'intégrité présenté par la députée indépendante Helen Haynes. Suite à cette décision audacieuse, Mme Archer a été convoquée à une réunion avec Scott Morrison, le trésorier Josh Frydenberg et la ministre des Affaires étrangères Marie Spain, que le Premier ministre a qualifié de réunion amicale. Mais Mme Archer n'est pas du même avis. Une réunion franche, selon elle, pour discuter des tensions. La sénatrice Anne Ruston a déclaré sur l'ABC qu'il était tout à fait raisonnable que le Premier ministre sollicite une réunion pour entendre les préoccupations de Madame Archer.
And that's exactly consistent with how the Prime Minister would deal with any other backbencher that sought to cross the floor. And I can assure you that the Prime Minister did meet with Senator Antic and Senator Rennick last week, as he would have met, I'm sure, with every other Liberal Party senator that had crossed the floor in the time he's been the Prime Minister.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 31 degrés. Adélaïde, 26. Melbourne, 23. Hobart, 21. Canberra, 20 degrés. Sydney, 22. Brisbane, 26. Cairns, 32. Darwin, 34. Et à Alice Springs, un maximal de 29 degrés. Un rappel des grands titres de ce 28 novembre, test urgent en cours pour voir si les passagers atteints de Covid-19 qui sont arrivés en Australie en provenance d'Afrique australe ont le variant Omicron. Les Antilles, le gouvernement français prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord, le monde du sport qui tourne le dos à l'Afrique du Sud suite à la découverte du nouveau variant du coronavirus, le variant Omicron. Les précisions de Romain Chanson pour Radio France Internationale.
C'est un adversaire que personne ne veut affronter. Omicron, du nom du nouveau variant détecté en Afrique du Sud. L'United Rugby Championship, une compétition qui devait se tenir en Afrique du Sud, a été repoussée. Les rugbymen gallois, irlandais et italiens présents dans le pays ont préféré la fuite en avant plutôt que la passe en arrière. Du côté de l'Open de Johannesburg, ce sont les golfeurs qui font défection. Une quinzaine des Britanniques et des Irlandais ont déclaré forfait pour essayer de rejoindre leur patrie avant la fermeture des frontières. Et quel avenir pour la saison de cricket? La tournée prévue des Sud-Africains en Inde en décembre pourrait bien être compromise. Le monde du football pourrait aussi se faire du souci. Prenons la CAN qui se déroule au Cameroun début janvier. Le Zimbabwe et le Malawi, considérés par certains pays comme zone à risque, pourront-ils participer à la compétition? Le Covid avait déjà éloigné les supporters des stades. Ce pourrait être au tour des joueurs.
Foot toujours avec le tirage au sort des barrages de la Coupe du Monde pour la zone euro vendredi, soit l'Italie ou le Portugal n'ira pas à Qatar. Explication de Christophe Jousset pour RFI.
Si l'on est portugais ou italien et que l'on a le cœur fragile, c'est le pire des scénarios. Le meilleur, si l'on est un spectateur neutre attiré par les sensations fortes des barrages. Le hasard a décidé de placer l'Italie, championne d'Europe en titre, et le Portugal, champion d'Europe 2016, dans la même voie de qualification, la voie C. Si en demi-finale, le 24 mars, l'Italie bat la Macédoine du Nord, et si le Portugal bat la Turquie, les deux ténors de ces barrages seront face à face en finale, et un seul ira au Qatar dans un an. C'est très difficile à lâcher Roberto Mancini, le sélectionneur italien, d'autant qu'il ne lui a pas échappé que pour ce choc éventuel, le match aurait lieu au Portugal. Cristiano Ronaldo y jouerait devant son public pour une cinquième Coupe du Monde consécutive. La voie B propose un tableau assez relevé également. Le vainqueur de Russie-Pologne affrontera le vainqueur de Suède-République tchèque. Possibilité donc de voir Lewandowski et Ibrahimovic lutter sur la même pelouse le 29 mars, le jour des finales de ces barrages. En comparaison, la voie A paraît assez faible, des demi-finales Écosse-Ukraine et Pays de Galles-Autriche. Gareth Bale peut-il rêver d'une Coupe du Monde? Oui, sans doute. Rendez-vous fin mars pour une petite semaine à haute tension.
Les Matildas ont subi une défaite 3-0 contre les États-Unis lors du premier de deux matchs amicaux devant une foule record de 36 000 personnes à Sydney. Hier, l'entraîneur Gustafsson a traité le match comme une répétition générale pour une Coupe du Monde, essayant les nouvelles joueuses inexpérimentées pour trouver sa meilleure formation défensive. Prochain match contre les États-Unis à Newcastle, mardi prochain. On passe en France avec la Ligue 1 et Nice, deuxième, qui dégringole face à Metz, 20e, 1-0. Lille et Nantes ont fait match nul, 1-partout. On écoute Benjamin André, le milieu de terrain lillois, qui ne mâche pas ses mots sur Amazon.
Ah, c'était un match de merde avec une pelouse de merde, voilà. Et il faut le dire, ça nous avantage pas non plus. Après, voilà, évidemment que dans l'ensemble, il fallait faire plus, il fallait faire mieux, mais malgré tout, on a un pénalty qu'on rate. Donc voilà, on ouvre encore le score, on se fait encore rattraper. C'est surtout ça, on avait dit qu'il fallait retrouver cette efficacité, on l'a encore une fois pas eu ce soir.
En Angleterre, Liverpool 3e a battu Southampton 13e, 4-0. En Allemagne, le Bayern de Munich 1er s'est imposé contre Arminia Bielefeld 1-0. Et le Borussia Dortmund 2e a battu Wolfsburg 3-1. Fribourg, 3e, battu par Bochum, 2-1. En Italie, l'Inter Milan, 3e, a battu Venise, 15e, 2-0. On passe au cricket et Pat Cummins, confirmé comme le 47e capitaine de l'Australie avec l'ancien skipper Steve Smith comme son adjoint. Cummins ne sera que le deuxième lanceur comme capitaine d'Australie et le premier à occuper ce poste à plein temps. Et le retour de Smith a un rôle de leadership après son implication dans le scandale de falsification de balles à Cape Town en 2018. Écoutez Pat Cummins.
We're so well, playing these days with not only the players we have around us, but the staff. I feel like I've got quite a lot of experience to draw on that. I think a lot of the problems or potential issues around being a fast bowling captain. I'm sure we'll be able to work through. Feeling overall excitement, as opposed to being too nervous about what might happen.
Le premier test des Ashes contre l'Angleterre, je rappelle, débute à Brisbane le 8 décembre prochain. L'ancien capitaine Tim Payne, quant à lui, prendra un congé des compétitions à la suite de sa démission dans le sillage d'un scandale des textes indécents qu'il avait envoyés à une collègue en 2017 et qui ont été rendus publics. Cricket Australia continuera à soutenir Tim Payne et sa famille personnellement et professionnellement. On passe au tennis. Tennis Australia précise les modalités pour l'Open d'Australie du 17 au 30 janvier prochain. Les joueurs devront être pleinement vaccinés avec 2 doses de vaccin reconnues 7 jours avant d'arriver en Australie. La Coupe ATP reviendra à Sydney avant l'Open d'Australie. Un record de 17 tournois sera organisé à travers le pays avant l'Open d'Australie. Le programme commence le jour du Nouvel An avec l'ATP Cup avec 16 équipes du 1er au 9 janvier. À Melbourne, ce sont 3 tournois, 2 WTA et 1 ATP qui se tiendront du 3 au 9 janvier. La numéro 1 mondiale, Ash Barty, devrait être présente au Women's Adelaide International du 2 au 9 janvier. Le Sydney Tennis Classic hommes et femmes aura lieu du 9 au 15 janvier. La Davis Cup, eh bien, la Grande-Bretagne a battu la France 2-1 ce matin. La victoire de l'Australie contre la Hongrie 2-1. L'Australie sera en toute probabilité l'hôte de la Coupe du Monde de rugby 2027. L'Australie et les États-Unis étaient en lice pour organiser l'événement 2027, mais le World Rugby Council a maintenant indiqué que la compétition de la Coupe 2031 se déroulerait probablement aux États-Unis. L'événement de 2027 devrait attirer plus de 2 millions de personnes en Australie sur 7 semaines de compétition, dont 200 000 visiteurs internationaux, et générer quelque 2500 milliards de dollars pour l'économie. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Heures 27 minutes et 23 secondes sur Radio SBS. Je passe maintenant l'antenne à notre collègue Christophe qui parle à François Sylvestre de Sassy sur son travail pour l'exposition Are You Recording? C'est au Head-On Festival de Sydney.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Alors aujourd'hui dans le programme en français et à l'occasion des Head-On Festival, on a pas mal couvert le Head-On Festival de Sydney ces derniers temps, on a le plaisir d'avoir François Sylvestre de Sassy avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors parlons un petit peu de votre exposition, ça s'appelle Are You Recording? Donc c'est une exposition qui est basée donc à Sydney pour le Head-On Festival, comme je l'ai dit. Pouvez-vous nous décrire cette expo? Admettons, on est dans un ascenseur, on a 2 minutes ou 1 minute pour nous décrire l'expo, ce serait quoi pour vous?
Ok, très bien. Alors, pour moi, c'est une expo qui tente de retranscrire un peu la situation des homosexuels en Chine, qui veut montrer dans quelle mesure ils peuvent réussir à vivre librement ou pas, donc leur sexualité, un peu les conditions de leur vie sexuelle là-bas. Et voilà, s'ils sont plus ou moins libres par rapport justement à ce système qui n'accorde pas vraiment de liberté en Chine.
Voilà, alors vous dites là, vous posez la question, hein, sont-ils libres? J'ai peur que la réponse ce soit quand même non, quand même, globalement.
Alors globalement, je dirais effectivement pas vraiment, même s'il y a une nouvelle génération en fait qui arrive et à qui j'ai eu affaire, parce que j'ai discuté avec beaucoup de jeunes. Quand je dis jeunes, donc c'était entre 18 et 30, 35, disons, ouais. Et c'est certains d'entre eux, sont prêts, en fait, à vivre leur sexualité plus librement, parce que comme l'impression que j'ai eue aussi à l'heure actuelle quand j'étais là-bas, c'est que les homosexuels ne sont pas forcément les ennemis numéro un. Et donc, il y a des jeunes, effectivement, que j'ai rencontrés qui avaient moins de mal à vivre leur sexualité, même si ça reste effectivement un gros tabou avec la famille, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est donc il y a des différences générationnelles à ce niveau-là. Mais globalement, même chez certains jeunes, ça reste assez problématique. Ouais.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire que peut-être les réseaux sociaux et on pense principalement à TikTok, on va dire ça. Est-ce que ça change quand même un peu la donne en Chine également? Est-ce qu'il y a peut-être une certaine voie qui se libère?
Alors je dirais oui. Même si on sait bien que leurs réseaux sociaux sont quand même grandement censurés. On va pas avoir tous les réseaux sociaux qu'on a ici, et donc il y a une censure qui est exercée sur les réseaux sociaux qu'ils peuvent utiliser. Mais effectivement, je pense qu'un réseau comme TikTok a pu permettre une certaine émancipation. Même si, comme je disais tout à l'heure aussi, il y a encore un contexte aussi familial qui est compliqué à gérer pour la plupart d'entre eux. Et voilà. Et après, voilà ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, je suis allé principalement dans les grandes villes, en fait. Et donc, dans les grandes villes, ce phénomène d'acceptation est évidemment accéléré. Et je n'ai malheureusement pas eu l'occasion d'aller dans des coins plus reculés, dans les campagnes. Ça, c'était pas, j'ai pas pu le faire, ouais.
D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de l'exposition, ce qu'on peut attendre, donc, et ce qu'on peut voir au festival, comment ça s'est créé, et puis comment on en vient à avoir ces photos montrées à l'autre bout du monde, quand même, pour vous.
Alors, en fait, la série, elle se constitue principalement de portraits. Donc, c'est-à-dire, c'est des Chinois que j'ai rencontrés là-bas. Donc, soit en direct, donc je suis allé directement dans des bars principalement, gay friendly, ou sinon que j'ai rencontré aussi via internet. C'est à peu près les deux, ouais. Et donc ce que j'ai voulu faire, c'est apprendre un peu à les connaître, donc discuter avec eux et qui me livrent un peu leurs impressions, comment ça se passait pour eux. Et donc après, j'ai voulu retranscrire ça via donc un portrait et aussi des photos que j'ai pu prendre dans ces lieux donc LGBT dans lesquels je suis allé et qui pour moi pouvaient retranscrire un peu justement toute cette ambiance dont je parlais un peu. Je sais pas si vous avez pu voir, mais sur les photos, c'est toujours un peu dans la pénombre, ouais. Voilà.
D'accord. Et pourquoi ce nom, Are You Recording?
Alors ça, en fait, ça vient d'un des Chinois que j'ai rencontré, avec qui j'ai échangé un bon moment, qui s'appelle Yann. Et donc avec qui je parlais évidemment de sa sexualité, mais pas que. Après, on en venait souvent à parler du système politique, de tout ce qui se passait en Chine. Et en fait, il commençait un peu à se confier. Et d'un coup, il s'est arrêté et m'a demandé... Are you recording? Il me demandait en gros si j'enregistrais cette conversation, et il a pris peur en fait. Et donc pour moi, je trouvais que c'était assez révélateur de la situation dans laquelle il se trouvait, ouais. Voilà.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire que de par ce travail que vous avez fait, est-ce que vous avez vu une certaine évolution dans le comportement des gens, même auprès de vous? C'est-à-dire que là on vient d'en parler justement de la réaction de cet homme, Yann, mais est-ce que c'était flagrant dans le sens où il y avait quand même une barrière et qu'il a fallu casser cette barrière et que petit à petit les gens ont pu se livrer à vous, mais que ça a quand même pris un petit peu de temps, ou c'était assez globalement ouvert une fois la glace cassée?
Alors, il a fallu justement casser cette glace, ouais, parce qu'il y avait quand même de la méfiance au début, ce qui est tout à fait normal, parce que il vit dans un pays où ils sont quand même assez fliqués. Mais après, j'ai réussi rapidement en fait à instaurer avec la très grande majorité d'entre eux un climat de confiance et qui leur ont permis de se livrer petit à petit. Et c'était ça qui était intéressant. C'est vraiment passé dans la très grande majorité des cas, effectivement, ouais. Il y en a même certains qui ont voulu vraiment faire partie de mon projet parce qu'ils voulaient raconter leur histoire. Il y en a même un autre qui tenait absolument en fait à me parler parce qu'il avait il vit un peu une double vie justement et il avait envie vraiment de se livrer à quelqu'un comme il l'avait jamais fait au cours de sa vie. Et donc voilà, on est arrivé à des contacts très intéressants et très fournis. Ouais.
D'accord. Et vous savez si peut-être ce contact chez un ou plusieurs personnes que vous avez rencontrées, est-ce que peut-être ça a été un effet libérateur et peut-être derrière il y a eu un coming out ou est-ce que vous êtes toujours en contact un peu avec les gens avec qui vous avez échangé?
Alors je suis en contact avec certains d'entre eux. J'ai pas eu vent d'un coming out après notre entrevue, après les moments qu'on a passés ensemble, non. En tout cas, je sais qu'il y en a un qui m'a beaucoup remercié après notamment les photos qu'on a prises ensemble parce que ça lui a permis donc à la fois de se livrer avant et aussi de s'accepter plus physiquement. J'ai malheureusement un exemple un peu inverse où un garçon que j'ai rencontré qui lui vivait à Hong Kong, qui tenait particulièrement vraiment à raconter son histoire, mais qui après m'a demandé de ne pas mettre en fait sa photo dans ma série, de ne pas la publier suite à la nouvelle voix qui avait été votée à Hong Kong et qui lui faisait peur en fait. Et donc il a fait marche arrière. Malheureusement.
Ouais, et puis c'est presque pas étonnant.
C'est compréhensible, c'est archi compréhensible. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, lui m'avait demandé de prendre des photos de lui sans qu'on voit son visage, parce qu'il avait peur déjà à la base de se montrer. Et donc finalement, j'ai réussi à prendre des photos où on peut l'apercevoir ou le deviner. Et même après ça, il m'a demandé pas les publier parce que par exemple il y avait une photo où on voyait son œil. Il m'a dit non, avec les techniques qu'ils ont mis au point en Chine, on pourrait très bien arriver à moi. Et il a raison, je pense, je comprends tout à fait sa position et je trouve ça dommage et triste pour lui, mais c'est tout à fait compréhensible.
Et vous, en tant que personne, vous en avez tiré quoi de ce voyage et d'avoir pu mettre ça sur une sorte de papier, un papier photo et sur les écrans, etc. Vous, en tant que personne, vous en avez tiré quoi?
En fait, j'ai réussi à tisser quand même des liens avec ces gens-là. J'étais confronté à une réalité à laquelle je n'avais jamais été confronté dans ce pays-là. C'est un pays qui m'avait toujours attiré, très attiré en fait. Déjà en fait tout simplement qu'on est très bien lotis là où on est, même si les choses ne sont pas parfaites. Ils m'ont beaucoup appris aussi à savoir apprécier donc justement ce qu'on a, les avancées qu'on a pu atteindre mais qu'il faut continuer en fait. Il faut continuer parce qu'il faut continuer aussi pour eux. Ouais. Donc moi à un certain niveau ça m'a donné envie de m'impliquer davantage, de reproduire à l'avenir aussi ce genre de reportage pour sensibiliser, ouais.
Et ça veut dire que pour vous il y aura une suite à cette série? C'est quelque chose que vous pensez peut-être développer
je voulais poursuivre cette série. J'avais prévu de retourner en Chine, donc c'était 6 mois après, en fait, après ma première venue. Et je voulais, en fait, me concentrer davantage sur la communauté lesbienne, que j'ai très peu touchée quand j'y étais. Et j'aurais aimé, justement, comme j'avais dit tout à l'heure, essayer d'atteindre des endroits plus reculés où la situation doit être bien différente que dans les Pékin, Shanghai. Et malheureusement, le Covid est passé par là. Et donc, je n'ai pas pu mener à bien mon projet. C'est peut-être partie remise.
Voilà j'allais vous dire.
C'est moins d'actualité pour l'instant, mais ça reste en tête, ouais.
Ouais, c'est ce que je voulais vous dire. C'est peut-être juste partie remise. Enfin, en tout cas, on l'espère.
Oui, je l'espère aussi parce que j'aimerais vraiment y retourner et continuer ça et vraiment l'achever en quelque sorte, même s'il est déjà bien avancé. Mais j'aimerais pouvoir le réaliser un jour, ouais.
Absolument, c'était un vrai plaisir de vous parler. Toutes les informations par rapport à l'exposition, où y aller, comment y aller, les dates, etc. sont bien entendu sur le site du Head On. Merci.
Merci à vous.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et dans 36 secondes, notre focus sur le personnage de la semaine, et ce sera le Premier ministre britannique. Comme chaque dimanche, nous nous attardons à présent sur une personnalité en lien avec l'actualité. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Focus sur Boris Johnson, le Premier ministre britannique, et les tensions entre la France et la Grande-Bretagne.
Boris Johnson, le Premier ministre britannique, il a adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron, le président de la République française. Une lettre publiée sur son compte Twitter jeudi 25 novembre, au lendemain du drame des migrants qui ont péri en mer entre les côtes françaises et britanniques. Ce bilan de 27 morts, ces personnes mortes noyées après le naufrage de leur embarcation au large de Calais, ces migrants qui ont tenté de rejoindre la Grande-Bretagne comme tant d'autres ces derniers mois en traversant la Manche depuis la France. Paris et Londres se renvoient depuis mercredi la responsabilité de ce drame. Boris Johnson, chef de file du Parti conservateur en Angleterre et Premier ministre depuis 2019, a dégainé le premier. Il s'est fendu de cette longue lettre où il interpelle le chef de l'État français sur du papier en tête, 10 Downing Street. Il commence ainsi, « Dear Emmanuel, cher Emmanuel, yesterday's happening tragedy in the Channel has shocked people across France and the United Kingdom, etc. etc. » Un courrier où, après avoir dit son émotion et avoir mis en avant les efforts des autorités françaises pour essayer de gérer cette question migratoire autour de Calais, eh bien, Boris Johnson sort l'artillerie lourde. En tout cas, il propose d'aider la France à sa façon. « Je propose, écrit-il dans cette lettre, je propose que nous mettions en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le retour de tous les migrants illégaux qui ont traversé la Manche. » Ce qui signifie clairement que Boris Johnson demande, au-delà du drame de mercredi et des 27 qui ont péri en mer, que tous les migrants, les clandestins qui traversent la Manche de façon illégale et qui arrivent sur le territoire britannique, eh bien, soient renvoyés en France, renvoyés dans l'Union européenne, dont ne fait plus partie la Grande-Bretagne depuis le Brexit.
Comment a été perçue par les autorités françaises cette lettre de Boris Johnson ?
Eh bien, elle a été très mal perçue. On n'est pas loin de la crise diplomatique entre Paris et Londres. Ce qui a le plus choqué, c'est que Boris Johnson utilise Twitter, les réseaux sociaux, pour s'adresser au président français. Cette lettre, tous les internautes peuvent la lire. Il a cassé les usages qui veulent que l'on communique par voie diplomatique, du 10 Downing Street à l'Élysée, des usages qui veulent que ces échanges entre dirigeants restent confidentiels. Là, Boris Johnson a délibérément mis sa lettre sur la place publique. C'est une façon de donner des gages à son opinion publique, aux Anglais qui ont choisi le Brexit. Boris Johnson leur dit « Regardez la lettre que j'ai envoyée au président Emmanuel Macron, que la France prenne ses responsabilités pour stopper cette immigration, ces traversées illégales de la Manche, le Royaume-Uni n'ayant aucune envie d'accueillir ces migrants sur leur territoire. C'est en tout cas la politique assumée par Boris Johnson. Alors, c'est peu dire que la méthode n'a pas plu à l'Élysée. Emmanuel Macron a réagi depuis Rome, en Italie, où il était en déplacement. Ce qui s'est passé ces derniers jours est trop grave sur le plan humain pour céder aux facilités, a dit Emmanuel Macron, qui a ajouté qu'il était surpris des méthodes de Boris Johnson. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par Twitter et par lettres que l'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte, a donc répondu cinglant le chef de l'État français. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, juge, lui, la lettre de Boris Johnson indigente sur le fond et totalement déplacée sur la forme. La France qui a répliqué en annulant l'invitation qui avait été faite à Priti Patel, la ministre de l'Intérieur britannique, surnommée comme Margaret Thatcher, Premier ministre britannique dans les années 80, en son temps la dame de fer. La France avait invité Priti Patel à participer ce dimanche à une réunion des ministres européens en charge justement bien des questions migratoires, réunion interministérielle entre France, Pays-Bas, Allemagne, Belgique et Union européenne. La Grande-Bretagne y était associée au regard de cette problématique brûlante de ce qui se passe dans la Manche, à Calais, dans le nord de la France, de là où les migrants, encouragés par des passeurs sans scrupules, eh bien, tentent par tous les moyens de rallier l'Angleterre en se cachant dans des camions qui empruntent le tunnel sous la Manche, en prenant la mer, au risque donc de leur vie. Gérald Darmanin, ministre français de l'Intérieur, et son entourage eh bien, ont justifié l'annulation de l'invitation de Priti Patel en ces termes. Hein. Nous considérons la lettre publique du Premier ministre britannique, Boris Johnson, comme inadmissible et contraire à nos discussions entre homologues.
Les relations donc entre la France et la Grande-Bretagne au plus bas, d'autant plus qu'il y a d'autres points de friction.
Bien, pour ceux qui en doutaient, on voit là toutes les conséquences du Brexit. La Grande-Bretagne et Boris Johnson qui ne font aucun cadeau à la France et à l'Union européenne. On garde cette ligne dure sur tous les dossiers. Les négociations de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne avait déjà été très compliqué, interminable, entre le référendum où les Britanniques décidaient de quitter l'Union européenne et sa mise en application. Des mois et des mois se sont écoulés. Theresa May, Premier ministre britannique, avait même fini par jeter l'éponge. Boris Johnson a repris le flambeau dans une approche très populiste. Boris Johnson, fin 2019, il avait qualifié l'accord enfin trouvé avec l'Union européenne de fantastique, mais depuis, eh bien, point par point, il cherche à modifier les règles et à faire tourner plus encore à son avantage l'accord conclu avec l'Union européenne, que ce soit pour le statut de l'Irlande du Nord, le contentieux sur la pêche, où au regard de l'accord passé au moment du Brexit, eh bien les pêcheurs européens peuvent continuer normalement à travailler dans les eaux britanniques s'ils peuvent prouver eh bien qu'ils y pêchaient auparavant, qu'il y ait une certaine continuité. Mais cela fait bientôt un an que les pêcheurs français attendent la délivrance des plus de 200 licences de pêche que les Britanniques doivent leur donner pour qu'ils aient accès aux eaux britanniques. Les Anglais, entre-temps, eh bien, ont changé les règles. Ils demandent toujours plus de papiers, toujours plus de preuves, notamment sur la géolocalisation, ce que nombre de pêcheurs, les petits pêcheurs indépendants, ne peuvent pas fournir, etc., etc. En tout cas, c'est comme si sur chaque dossier, chaque question, Boris Johnson faisait tout pour rendre les choses impossibles. Il y a eu aussi l'épisode des sous-marins français que la France devait vendre à l'Australie, ce contrat cassé par les Australiens pour se tourner vers les Américains et les Britanniques. Boris Johnson, à cette occasion, a été reçu à la Maison-Blanche, même si l'accord concerne surtout les États-Unis et l'Australie, hein, mais la Grande-Bretagne y est associée, la fameuse alliance AUKUS. Boris Johnson n'avait pas manqué à l'occasion eh bien, de tacler, une fois de plus, les Français. Il les avait invités à se ressaisir, hein, de prendre un grip, avait-il dit, malgré le camouflet reçu par les Australiens. On le voit donc, tous les moyens sont bons dès qu'il le peut. Boris Johnson met en cause la France. Depuis le début de l'année 2021, près de 30 000 migrants auraient traversé la Manche, hein, de la France vers l'Angleterre. Boris Johnson qui a fait campagne sur la promesse, grâce au Brexit, de voir Londres, la Grande-Bretagne, reprendre le contrôle de ses frontières. Il propose que des gardes-côtes britanniques, des policiers britanniques, viennent sur les plages du nord de la France pour épauler les autorités françaises, puisqu'elles ne parviennent pas à juguler cette vague migratoire, pour empêcher le départ de ces small boats depuis les plages françaises vers l'Angleterre. Boris Johnson s'appuie sur le drame de mercredi dernier pour dire, en substance, à ses compatriotes, tout cela est de la faute de la France, des Français, qui ne sont pas capables de maîtriser le flux migratoire et tout ce qui se passe à Calais.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. N'oubliez pas de télécharger nos podcasts gratuitement sur sbs.com.au/French. Belle journée, à bientôt et je vous laisse avec Bernard Lavillier et Terre Noire, Je tiens d'elle. À bientôt.
Qu'on pas souffert. Je suis noir, je suis belle. Je suis fumée, poussière, vacarme assourdissant. Mais ça, c'était avant.
Il faudra que je parte, mais promis je reviens. Poser ma rose fière sur la terre des anciens. Je ferai rugir les gares, les rêves de grands chemins. Il faut bien que je parte pour devenir quelqu'un.
Au quartier du soleil, quand j'apprenais la boxe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.